Bonjour et bienvenue dans The Storyline, le podcast qui part à la rencontre des experts du storytelling et des créateurs de contenu. Je suis Noémie Kempf et deux fois par mois, j'invite un ou une experte du storytelling et du marketing pour décrypter les stratégies qui font le succès et la désirabilité des marques. Chaque épisode se concentre sur un cas d'usage concret ou une industrie spécifique. Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com. Aujourd'hui, je rencontre Laure Verdeau, directrice de l'Agence Bio, l'agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique. Ensemble, on discute de l'explosion des labels privés, du chaos informationnel créé par les acteurs de l'agroalimentaire et de la mécompréhension autour du bio, mais aussi de sa stratégie pour communiquer à l'échelle nationale sur le sujet avec un budget très limité. Bonne écoute! Bonjour Laure.
Bonjour Noémie.
Merci de nous rejoindre dans The Storyline, bienvenue.
Merci, je suis ravie de pouvoir parler de bio.
Ah bah, tu m'étonnes. Moi aussi, je suis ravie que tu nous rejoignes et qu'on puisse parler un petit peu de tout ce que tu as fait et de toute ton expérience de la communication autour d'un sujet ô combien important. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de toi, de ton parcours et des expériences qui t'ont amené jusqu'au label bio et ce qui t'a donné envie de rejoindre cette aventure ?
Eh bien, j'ai grandi en Corse, près de vergers plutôt beaucoup traités, dans une famille qui a été sensible tout de suite à l'argument du bio. On appelait ça à l'époque le non-traité, dans les vergers d'agrumes en Corse. Ensuite, j'ai eu un classique parcours de bonne élève. J'ai fait une école de commerce après Sciences Po. Et même étudiante, j'achetais quand même mes pommes à croquer en amphi en bio. Et puis, j'ai fait du conseil dans un cabinet américain pendant 4 ans. Je me suis rendu compte que l'alimentation, c'était vraiment ma clé de lecture du monde. Et j'ai décidé de bifurquer et de me mettre au service de ceux qui fabriquent notre nourriture et au premier rang desquels les PME, parce que les entreprises agroalimentaires, c'est 17 000 entreprises, mais c'est 99% de PME.
Okay.
Pendant 6 ans en tant qu'indépendante, puis 4 ans chez BPI France, qui est la banque publique d'investissement qui s'occupe particulièrement des PME, j'ai fait du conseil. J'ai accompagné la croissance, le développement, le repositionnement de PME d'agroalimentaire. Ça allait des ratatouilles au yaourt en passant par les steaks hachés. J'ai fait un peu tout le garde-robe, le garde-manger des Français. Mais surtout, j'ai sillonné la France entière partout où il y avait des usines d'agroalimentaire. Et puis, à force de dire aux dirigeants, et on n'envisagerait pas de faire du bio, je me suis dit que c'était mieux de passer à l'échelle. Et donc, j'ai rejoint l'agence bio parce que moi, là, je parle de bio matin, midi et soir.
Ok, tu parles, tu manges et tu parles de bio matin, midi et soir, c'est génial. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ou qui voient un peu de loin, parce que c'est vrai que c'est un label qu'on voit sur un grand nombre de produits de consommation du quotidien, mais concrètement, qu'est-ce que c'est le label bio ?
Alors, le label bio, c'est le diplôme d'État de l'agroécologie, c'est-à-dire que c'est le label de qualité, la garantie que le produit que vous avez dans les mains a été produit selon un cahier des charges qui est défini par la loi, en l'occurrence une loi européenne. C'est 300 pages qui disent les interdictions, les autorisations pour définir un mode de production qui est en rupture avec l'agriculture industrielle que l'on connaît depuis la révolution industrielle, mais qui se rapproche de l'agriculture biologique qui a été celle qu'on a pratiquée depuis 10 000 ans. Ça fait 10 000 ans qu'on est agriculteur, nous les hommes. Ça fait 10 000 ans qu'on fait du bio. Ça consiste à éradiquer de son arsenal, de sa boîte à outils, la plupart des produits chimiques de synthèse. Donc en fait, la chimie de synthèse, c'est ce qui a été créé avec la seconde révolution industrielle, et c'est l'élaboration de molécules en laboratoire, et ça, le bio décide de s'en passer, c'est-à-dire qu'il ne se base que sur 57 substances qui sont issues de la chimie naturelle, le cuivre, le petit lait, le kaolin, etc., et il se prive de toutes celles qui restent autorisées en Europe. Pour info, il y a 455 substances chimiques autorisées en Europe, naturelles et synthétiques.
Okay.
Le bio, c'est 57, pas plus. Et ça dit comment, une fois que tu t'es débranché de tous ces produits chimiques, tu peux produire. Ça donne des contraintes fortes, notamment en matière d'élevage. Il faut que les animaux soient au pré, il faut qu'ils soient nourris en bio, parce que ce serait dommage qu'un animal, un steak... génèrent des pesticides dans les champs parce qu'ils mangent du soja, enfin, ou des protéines végétales non bio. Mmh. Ça donne des grands principes, mais c'est surtout 300 pages de contraintes réglementaires. Et ça existe depuis donc 91 à l'échelle européenne. Mais nous, les Français, on a été pionniers. On avait des cahiers des charges bio dès les années 80. Et ça a été reconnu par la loi française dans les années 80. Et donc, c'est vraiment la garantie que c'est une agriculture ultra contrôlée. C'est-à-dire, chaque agriculteur bio, il a un contrôle obligatoire par an, où il est prévenu 3 semaines avant pour être sûr qu'il est là et qu'il a bien ses papiers prêts pour l'auditeur. Mmh. Plus, il a un contrôle surprise. Et ces contrôles, ils sont faits par des organismes indépendants, comme Bureau Veritas ou Ecocert. Il y en a 10 qui sont agréés en ce moment. Chaque année, l'État délivre des agréments. Et ce sont eux qui contrôlent l'application des 300 pages de cahier des charges.
Ok, génial. Hyper intéressant. Concrètement, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de créer un label bio en France ?
Alors, le label bio, c'est un peu comme maintenant le commerce équitable. Il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont fleuri au même moment. Mmh. En ce moment, par exemple, il y a 9 labels privés de commerce équitable qui sont fédérés dans la Fédération de commerce équitable France. C'était à peu près la même chose il y a 40 ans dans le bio, jusqu'à ce que l'État s'en saisisse. Pourquoi ? Parce que les gouvernements de l'époque se sont dit, bon, ok, il y a encore 22 ans, il y avait 1% des agriculteurs qui produisaient en bio. Mmh. Au début, c'était vu un peu comme des uluberlus. Mais le bio générait de l'emploi, ne traitait pas, et donc les pesticides synthétiques, c'est quand même les molécules qu'on retrouve dans les nappes phréatiques et les cours d'eau, ça arrange bien l'État s'il n'a pas à dépolluer. Et puis, ça avait l'air d'être des agriculteurs plutôt bien dans leur basket. En parallèle, c'était une aspiration sociale assez large, les gens avaient envie de manger des produits plus naturels, plus authentiques, de rompre avec le chemin très intensif qu'on avait pris. Et donc, cette rencontre sociétale, cette aspiration dans les champs, ils se sont dit, on va structurer ça au sein de la loi, parce qu'il n'y a rien de mieux pour protéger un consommateur que la loi. En fait, le bio, c'est un peu comme une banque centrale qui garantit une monnaie. Ça garantit que c'est vraiment une forme d'agriculture biologique. Et ce qui est terrible, c'est qu'actuellement, on a tendance à confondre une vraie monnaie garantie par l'État avec des labels privés très marketing, qui souvent sont ni contrôlés ni contraignants. Et c'est un peu comme des crypto-monnaies, quoi. C'est difficile de faire confiance quand on n'a pas de sécurisation en tant que citoyen / consommateur.
Oui, et c'est hyper intéressant ce sujet-là, de justement la différence entre des labels publics, des labels privés, et de la place et du rôle du marketing et de la com dans l'accession à une grande notoriété de certains labels qui ne sont pas forcément les plus vertueux. On va y revenir. Mais justement, je voulais te demander, concrètement, un label, n'importe qui peut en créer un?
Alors, c'est toute la nuance entre un label privé et un label public. Mmh. Il y a des démarches qualité où, effectivement, tu vas avoir 3-4 fabricants qui vont se regrouper et dire, bah, nous, on va produire, admettons, un porc bien élevé. Encore faut-il que le cahier des charges soit à disposition des consommateurs, qu'on puisse le consulter, qu'il soit contrôlé et qu'il soit suffisamment contraignant. En fait, nous, consommateurs, on n'a pas le temps d'aller se palucher les cahiers des charges de tous les produits de qualité.
Bien sûr.
C'est pour ça qu'il faut un phare dans la nuit de toutes ces labels des allégations marketing. Et c'est pour ça qu'un label public, c'est ce qui est le plus sécurisant. C'est un peu comme la plaque du médecin, quoi.
En effet.
Après, t'es libre à toi d'aller chez un hypnothérapeute. Mais disons qu'au moins, on sait qu'on a des prestations qui sont différentes.
Sur un ensemble de critères. Hyper intéressant. Parce que justement, aujourd'hui, le bio souffre de l'inflation, du recul du pouvoir d'achat, donc vraiment d'une grosse pression économique, mais aussi peut-être d'une grosse mécompréhension autour de ce qu'il est de plus en plus forte. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce sujet ?
Alors, effectivement, l'inflation contribue à toute une sorte de réaction en chaîne et au premier rang desquelles les grandes surfaces retirent les produits bio de leur rayon. Notons quand même que l'inflation, elle est légèrement moins forte en bio. Mmh. Elle était de 4 ans moins forte sur l'an dernier. Même si les bio subissent les hausses de l'énergie, du carburant, etc., ils n'ont pas subi la hausse de 800% des engrais synthétiques.
Oui.
Or, les engrais synthétiques, c'est très cher. Par exemple, les grandes cultures pour le blé, etc. Donc, le bio a une plus grande capacité à encaisser les chocs, mais il y a le vrai problème, c'est l'enjeu de perception, parce qu'on a tendance à coller l'étiquette trop chère au bio. Et effectivement, tu pointais la méconnaissance, c'est le drame, ce qui est en train de frapper le bio, plus que l'inflation, c'est que les citoyens ne savent plus ce qu'est le bio, pourquoi c'est bien, et comment est-ce qu'on peut en manger plus, quel que soit son budget. Parce que oui, le bio, c'est pour tout le monde. Effectivement, il y a 10 millions de Français qui sont en situation de précarité alimentaire et c'est hyper important que le bio fasse partie de l'aide alimentaire, mais il y en a quand même 58 millions d'autres qui peuvent faire des arbitrages. Or, ils les font, les arbitrages. Je ne crois pas qu'il y ait une baisse drastique de la consommation de café en capsule. Alors, c'est hyper cher. Il n'y a pas eu de baisse de la consommation d'eau en bouteille ou des sodas divers et variés ou de la, des salades en sachet. Les salades en sachet, par exemple, leur prix au kilo, c'est démentiel. Pourtant, tout ça, ça prouve que donc on peut faire encore des arbitrages, mais on ne les fait plus en faveur du bio, parce qu'on ne perçoit plus pourquoi chaque euro investi en bio, c'est un euro qui profite au collectif, qui nous profite à tous, et notamment en termes de biodiversité. C'est prouvé par la science qu'il y a 30% de biodiversité en plus sur une ferme bio. En termes de qualité de l'eau, on va manquer d'eau, on a plutôt intérêt à ce qu'elle soit de très bonne qualité. Pour être de bonne qualité, il n'y a pas mieux que d'avoir des agriculteurs bio près des zones de captage. Mmh. Et donc, tout ça fait qu'il y a un détournement et qu'on voit un arbitrage qui est lunaire. On a des gens qui nous disent, non, consommateurs historiques de bio, qui nous disent, non, mais moi, j'ai arrêté le bio, j'achète du local. Mmh. Donc, c'est n'a rien à voir. C'est comme si je vous disais, non, mais moi, pour lire l'heure, j'ai arrêté de regarder ma montre, je regarde mon thermomètre. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le bio dit comment c'est fait, et il dit comment c'est fait où que ce soit, ce n'est pas un code postal. Local, ce n'est pas défini par la loi. C'est-à-dire que quelqu'un peut vous vendre un muesli local, il aura des fraises de Serbie dedans, il aura tout. C'est tellement subjectif, en fait, qu'il n'y a pas de définition légale qui nous protège, nous, citoyens / consommateurs. Donc, actuellement, le vrai sujet, c'est d'augmenter le niveau de connaissance des citoyens sur le bio, parce qu'on sait qu'ils vont devenir consommateurs. Et par exemple, le fait qu'on nous dise « moi, je mange pas bio, je mange local », rien ne dit que le produit local que tu vas acheter, il n'a pas contribué à abîmer les nappes phréatiques. Donc, c'est un vrai sujet. Mmh. Et je finirai sur une étude de la Fondation Jean Jaurès qui a été sortie par Irine, qui à l'époque s'appelait Irine, mais maintenant c'est Circana, Émilie Mayer, qui étudie les performances commerciales des produits dits locaux. Donc, ils ont pris arbitrairement, je crois, 70 km autour des supermarchés, hypermarchés.
Okay. C'est
une étude qui concerne la grande distribution. Ils disent, ben voilà, nous, on a regardé, il y a un potentiel de marché d'un demi-milliard, mais c'est surtout que les prix sont 40% au-dessus des produits lambda. Donc, il y a un consentement à payer 40% plus cher les produits locaux, parce que c'est un segment qui est en croissance, donc tous ces produits qui viennent des parages du supermarché où ils sont achetés, mais il n'y a plus cette propension à payer pour le bio. Et ça, c'est absolument dramatique, parce que, certes, c'est très bien d'acheter local, mais là encore, local, ça ne veut pas dire circuit court, ça ne veut pas dire... on ne sait même pas quel kilométrage c'est. Mmh. Mais le transport, ça ne pèse que pour 20% dans l'empreinte environnementale d'un produit. C'est-à-dire qu'il vaut mieux choisir un produit bio qui vient d'un peu plus loin plutôt que un produit qui a utilisé des engrais azotés de synthèse, des pesticides chimiques de synthèse qui viendraient de tout près.
Bien sûr.
Parce que 80% de l'impact, c'est le mode de production, c'est les choix que font les agriculteurs.
C'est dramatique de t'écouter raconter tout ça. Une petite question, moi je trouve ça assez fascinant parce que ça illustre bien le problème de la perception. Et donc du coup, derrière cette notion de perception, il y a des discours contradictoires, parfois un peu manipulateurs. Comment on en est arrivé là en fait? Comment on en est arrivé à cette espèce de chaos informationnel et de tendances de consommation qui sont de moins en moins éclairées, alors qu'on est quand même censé avoir un accès de plus en plus simplifié à l'information et au savoir?
Disons qu'on arrive à une période de l'histoire inédite où jusqu'ici, il n'y avait pas assez de produits bio pour la demande. Donc, on ne fait en général pas de pub, entre guillemets, pour des produits quand on en manque. Mmh. Donc, jusqu'ici, l'enjeu du secteur bio, c'était que les agriculteurs se convertissent de façon à servir cette demande.
Oui.
Il y a 3 ans, parce que ça prend 3 ans de se convertir au bio, quand les agriculteurs ont décidé de se convertir en se disant « il y a un marché, j'y vais », ils faisaient un choix rationnel. Sauf qu'ils arrivent au terme de cette conversion 3 ans plus tard, le marché n'est plus là, parce que il a souffert, effectivement. Bon, il y a une partie de bio-bashing, il y a la partie d'inflation, il y a une partie d'ignorance croissante parce qu'on n'éduque pas au bio. Et donc, le chaos, il existe. De toute façon, le chaos, moi-même, je, en arrivant par le métro, j'ai eu des pubs pour des burgers dégoulinants. J'avais pas faim. On n'est pas encore à l'heure du déjeuner et mon petit déjeuner n'est pas loin. Et j'ai vraiment senti que j'étais surstimulée et que mon cerveau reptilien avait trop envie de croquer dans ce burger, ce qui est une aberration. Donc, c'est bien la preuve qu'on est surstimulé par des messages qui ne sont pas forcément en notre intérêt. Mmh. On n'est pas protégé, notamment de stimuli. Peut-être que dans 2000 ans, on sera habitué et ça ne déterminera pas nos envies et on ne mangera peut-être pas plus de burgers parce qu'il y a plus de pubs, mais ça va prendre du temps. Donc, en fait, on est surstimulé par des messages où on voit que certaines confiseries qui sont grasses comme des rillettes, on dit qu'elles sont autant de calcium qu'un grand verre de lait, enfin ce genre de choses. Mais à la limite, c'est pas grave. Si c'est, le capitalisme va pas s'arrêter demain. On a fait ces choix-là. On est dans un marché concurrentiel où il y a des gens qui peuvent se payer de la pub et donc on les entend, on les voit. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on est des citoyens avertis et qu'on ne tombe pas dans les pièges à la fois des allégations frauduleuses. Comment on ne tombe pas dans la subjectivité? Comment est-ce qu'on a une colonne vertébrale nous-mêmes assez solide pour résister à des messages qui ne sont pas forcément dans notre intérêt et dans l'intérêt des agriculteurs? Et donc pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Sur le long terme, il faut de l'éducation alimentaire à l'école. Et d'ailleurs, c'est marrant qu'on en parle parce que ce week-end, on a eu une secrétaire d'État ou une ministre qui en a parlé, qui a dit qu'il fallait de l'éducation alimentaire. Et je pense que c'est un peu le sens de l'histoire et tout le monde converge là-dessus. Et à court terme, et notamment pour relancer les demandes de bio, parce que sinon, les agriculteurs bio vont se déconvertir et ce sera un drame. On risque de perdre notre position de champion européen de la production bio. Il faut des campagnes d'information citoyenne larges qui disent trois choses. Ce qu'est le bio, pourquoi c'est bon et comment on en mange, quel que soit son budget. Il faut qu'on soit accompagné sur le chemin de la transition alimentaire, comme l'ADEME, par exemple, nous accompagne sur le chemin de la transition énergétique. On a mis quelques années à piger qu'il fallait trier nos déchets, éteindre la lumière, couvrir nos casseroles, ce genre de choses.
Oui.
Bon, tous ces messages se sont imprimés sur notre rétine parce qu'ils étaient quelque part. Il n'y a actuellement aucun endroit où on passe des messages sur le bio. Et nous, Agence Bio, on est sous-occupés puisqu'on a été construit à une époque où il y avait un déficit d'offres bio, mais certainement pas un déficit de demande. Donc c'est pour ça que nous, ce qui nous paraît indispensable, c'est qu'on ait des budgets qui soient à la hauteur de, par exemple, les budgets qu'ont la viande pour dire « aimez la viande, mangez-en mieux », ou les produits laitiers pour dire « les produits laitiers, des sensations pures », ce genre de choses, ou même l'ADEME. L'ADEME a un gros budget pour parler de la transition au grand public. Et donc, il nous faut, tout comme on est accompagné dans la transition énergétique, il faut qu'on soit accompagné, nous, consommateurs et citoyens, dans la transition alimentaire. Et par exemple, la transition énergétique, on voit bien d'où on part et où on arrive. On part de la voiture thermique, descendre à la charbon, et on arrive vers le photovoltaïque, les voitures électriques, les vélos électriques. La transition alimentaire, c'est plutôt flou. On ne sait pas d'où on part et on ne sait pas où on vient, où on va. Or, les réponses, elles existent. On sait où on va. On mange 83 kg de viande par an par habitant. Ça fait 1,5 kg par semaine. Or, le Programme national nutrition santé parle de 500 grammes. On sait qu'on mange que 2 kg de légumineuses par an par habitant. Or, si on veut, dans les champs, se passer d'engrais synthétiques, la seule façon de refertiliser la terre, c'est de régulièrement replanter des légumineuses. Mais si on plante des légumes, c'est ce que font les bio d'ailleurs, mais si on plante des lentilles tous les 7 ans et des pois chiches tous les 7 ans aussi dans les rotations, il faut bien que quelqu'un les mange en ville. Et donc pour ça, il faut que les gens sachent cuisiner. Et puis même qu'ils soient informés sur que ça fasse de nouveau partie de notre quotidien comme c'était le cas au début du siècle. Donc ça, on sait qu'on va acheter de plus en plus local, de plus en plus végétal, de plus en plus de saison. Mais encore faut-il connaître les saisons. Donc une fois de plus, on en revient au besoin d'éducation initiale et d'information tout au long de la vie du citoyen. Okay. Et ça, on ne pourra pas être des citoyens d'une vraie démocratie alimentaire. On ne pourra pas être des citoyens qui peuvent voter avec le porte-monnaie si on n'est pas éduqué et informé.
C'est passionnant et on va revenir justement à ce que toi et ton équipe vous avez mis en place justement pour vous lancer et débuter ce travail assez drastique d'éducation, d'information, de communication. Mais avant ça, oui, je me permets de rajouter cet élément. Je trouve qu'il vient encore complexifier, tu y as fait allusion en parlant de l'industrie de la viande et de l'industrie laitière. En effet, les gros agro-industriels n'ont eu aucune vergogne à finalement s'approprier des concepts, des codes, des symboles qui sont relatifs au bio. Finalement, la couleur verte, aujourd'hui, il n'y a rien qui empêche de l'utiliser. Certains champs sémantiques comme « bon pour la planète » ou « bon pour la santé », c'est des claims qui sont alors quand même un peu contrôlés dans certaines industries, mais pas entièrement. Et aujourd'hui, finalement, il y a peut-être aussi ce problème qui est que non seulement vous devez éduquer une nation entière aux enjeux d'une transition alimentaire, mais en plus, vous avez des... j'ai pas envie de dire le mot ennemi, mais vous avez des concurrents qui sont positionnés sur le même type de discours, mais qui servent des intérêts qui sont quasiment opposés aux vôtres.
En fait, tant qu'on n'a pas... le problème, c'est que pour l'instant, nous, on est plutôt muets. On est les Bernardos de l'histoire, puisqu'on ne peut pas s'exprimer. Tant que tu n'as pas de budget, nous, on n'a même pas un demi-million d'euros de budget à l'Agence Bio. Donc là où les campagnes dont on parle, elles sont plutôt aux alentours de 30 millions par an. Donc, tant qu'on n'aura pas une part de voix... C'est vrai que moi, j'ai pas de problème à ce que des grandes boîtes industrielles claironne des messages plus ou moins vertueux. En revanche, j'ai un vrai problème avec le silence du bio.
Ouais. Et ben du coup, concrètement, aujourd'hui, comment est-ce que tu as commencé à communiquer avec les gens à l'échelle nationale ? Parce qu'il y a des choses qui ont été faites.
Alors ça, je rends hommage à Jocelyne Foissier qui est dans nos équipes, qui s'est saisie du dossier, puisque quand on a vraiment alerté le ministre, il nous a donné une première mise initiale de 500 000 euros pour faire une campagne, qui serait la première campagne sur les produits bio. Et avec ça, on est allé voir les interprofessions qui, elles, sont venues à nos côtés pour porter des messages communs.
Je me permets, tu peux préciser ce que c'est les interprofessions pour les auditeurs et auditrices qui connaissent
En France, les filières sont organisées au sein d'interprofessions qui regroupent tous les maillons d'une chaîne, de la chaîne de production. Donc, il y a un collège des producteurs, un collège des transformateurs, un collège des distributeurs. Et elles représentent l'ensemble de la profession. Mmh. Et elles sont institutionnalisées par le ministère de l'Agriculture qui les autorise à prélever une taxe sur les producteurs afin de financer leurs actions de valorisation des produits de la filière.
Génial.
Et donc, les interprofessions, c'est le CNIEL pour les produits laitiers, Interbef pour la viande bovine, Interfel pour les fruits et légumes. Vous avez peut-être en tête la dernière campagne « Les fruits et légumes, jamais trop » avec la chanson « I just can't get enough ». Ça émane de l'Interfel, par exemple. Et ce sont des gens qui sont les interlocuteurs des pouvoirs publics pour les produits de leur filière. Et donc, il y a des interprofessions, il y en a qui sont de très grosse taille, donc les trois que je viens de citer, il y en a des plus petites, concernant les œufs, la volaille, la pomme de terre. Et quand la crise du bio a commencé à s'intensifier, c'était donc au Salon de l'Agriculture 2022, mmh. on a constitué l'équipe de France du bio, parce que les interprofessions, elles ont parmi leurs adhérents et leurs cotisants les bio, justement. Et donc, l'objectif, ça a été de pousser des messages positifs sur le bio, jamais de stigmatiser les non-bio, d'endosser chacun la même signature visuelle, la même slogan, la même tagline, donc pour nous, pour la planète, BioReflex, et sous une même bannière, en fait, de communiquer conjointement en radio, en affichage dynamique. D'ailleurs, à chaque fois qu'on a déployé la campagne dans des centres commerciaux, il y a eu plus 5% de chiffre d'affaires en bio. De faire une étude d'impact, comme ça je peux vous donner ce chiffre-là. Et nous, on se chargeait de faire la communication sur pour nous, pour la planète, BioReflex, en mettant en valeur, bien sûr, le label AB. Et chaque filière reprenait le même message, mais en mettant en valeur qui les fromages, qui les œufs, qui le poulet de chair.
Oui.
Et donc, ça nous a permis déjà de faire la preuve que la solution, elle ne sera que collective. Mm-hmm. Ensuite, le bio, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas que l'affaire des bio, c'est l'affaire aussi des non-bio. Et que de braquer les projecteurs sur le fait qu'on est trop peu consommateurs de bio en France. On ne mange que 6% de bio. Ça nous met au niveau des États-Unis. Or, on a des voisins, pour ne pas citer par exemple les Danois, qui sont les meilleurs, ils mangent 12% de bio. Si demain, on mangeait 12% de bio à la maison, il n'y aurait plus de crise de bio.
Je suis choquée qu'on soit au niveau des Américains. Franchement, c'est une petite claque quand même.
Et les Allemands sont à 9%.
Okay.
Donc, rien que l'exemple allemand dont on se nourrit souvent, là, pourrait nous orienter vers une hausse de nos achats.
Ouais, donc il y a du taf. Je reviens sur cette stratégie parce que je la trouve assez passionnante et finalement, elle s'applique à plein d'autres secteurs d'activité. Quand tu as des ressources limitées, que ce soit du temps ou du budget, c'est quand même une extrêmement bonne pratique d'aller s'appuyer sur des acteurs qui ont un intérêt à communiquer autour de ton sujet, des ambassadeurs. Dans mon cadre, j'ai il y a quelques mois lancé mon livre, donc ça n'a absolument rien à voir. Mais j'ai un peu utilisé la même approche qui était, on va essayer de démultiplier le message, en tout cas de lui offrir une caisse de résonance à travers d'autres voies, d'autres canaux, d'autres réseaux. Et comment on fait ça? En allant parler à des gens qui ont un intérêt à prendre la parole et à porter ce message-là. Et à mon échelle, du coup, mon humble échelle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré des citations de personnes que j'avais interviewées pour alimenter le livre et ses idées. J'ai créé des visuels, des trucs un peu sympas, des carrousels, etc., que ces gens-là pouvaient réutiliser sur leur réseau. Et je leur ai envoyé un petit message au lancement du livre en leur disant, un peu avant le lancement, il sort dans une semaine. Merci pour ta contribution qui était précieuse. J'ai identifié le truc le plus cool et la valeur que tu apportais. Et voilà ce que tu peux faire si tu veux donner un petit coup de boost au livre. Tu peux poster sur tes réseaux. Et ça extrêmement bien marché parce que du coup c'est une posture de facilitateur, ça valorise la personne qui communique autour, elle s'approprie le message, elle ne dit pas voilà un livre, achetez-le, elle dit voilà comment moi je contribue à mon échelle à la création d'un projet commun, tu parlais du collectif et je trouve que c'est un peu le futur du marketing et de la communication, c'est de créer des messages communs et donc vous c'était le bio-réflexe mais que chacun peut s'approprier et je trouve ça assez génial.
Ben écoute, c'est ça, c'est chacun endosse le dossard et nous, on l'a vraiment construit comme une... En fait, on a vraiment mis la ressource publique qu'on nous a donnée à l'origine au profit du collectif. Donc, on est tout à fait dans cette ligne-là et ça marche puisque du coup, donc les interprofessions, les filières s'en sont saisies la première année et cette année, dans la foulée, comme les performances commerciales étaient au rendez-vous, les régions ont commencé à l'endosser. Le 22 septembre sera lancé sur la Journée européenne de la bio la campagne officielle de la Bretagne qui s'est extrêmement mobilisée parce que la Bretagne tient à garder son patrimoine, son trésor régional de fermes bio et elle veut pas que ça se déconvertisse, donc elle soutient la consommation. Auchan et Prince de Bretagne nous ont aussi demandé d'endosser la campagne et puis on a les marchés internationaux, Rungis notamment a affiché lors du printemps bio cette campagne aussi. Donc c'est vraiment le patrimoine commun qu'on fournit. Et chacun le customise ensuite.
Ouais, c'est génial. C'est une super stratégie. Du coup, je me demandais par rapport à tout ça, tu t'es appuyée sur tous ces acteurs, mais vous avez aussi eu un rôle assez central. Est-ce que tu peux me parler un petit peu, concrètement, comment est-ce que tu communiques avec des gens à l'échelle nationale? Quels sont les canaux finalement de communication, les formats sous lesquels vous êtes intervenu?
On n'a pas encore le budget pour faire mais on espère bien que, vu qu'on a été plébiscité, on a de nouveau eu 750 000 euros, puis ensuite 500 000 à venir, et puis ensuite on espère qu'on aura encore, parce que c'est un patrimoine de messages qui a vocation à vivre plusieurs années.
Bien sûr.
Nous, ce qu'on a fait, c'est que on a vraiment tablé sur de la radio et de l'affichage. Et là, on va rajouter de la presse pour la troisième vague, donc qui commence le 23 septembre avec la Journée européenne de la bio. Parce que le national, c'est bien, mais en même temps, il n'y a rien, et l'affichage dynamique dans les points de vente, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Le bio, il n'est pas parisien, il n'est pas hors sol. Le but, c'est qu'il aille s'imprimer sur la rétine de tous les consommateurs sur le territoire français. Mmh. Donc, et effectivement, le Saint Graal reste toujours la campagne pub parce que ça a notamment la vertu de fédérer l'écosystème derrière. Mais pour optimiser, on a été plutôt très bien conseillé. On a fait notre campagne avec Media Pilots.
Okay.
On sait qu'on a eu des avalanches de textos d'agriculteurs qui nous entendaient sur leur tracteur parce qu'on était sur les différents France Bleu. Mmh. Donc on a vocation à être dans des médias de proximité, quoi.
Bien sûr. Et tu me parlais, la dernière fois qu'on a échangé un peu en off, de cette approche aussi qui consistait à aller investir le terrain de jeu des non-bio.
Ah bah là, on sort d'un salon typiquement qui s'appelle Omnivore, qui est un salon de foodistas, de chefs, de gastronomes, qui n'avaient jamais vraiment traité du bio. Et cette année, grâce à un financement européen qu'on a gagné, on a pu avoir un stand pour parler de bio, pour montrer qu'il y avait plein de chefs qui utilisaient beaucoup de bio, mm-hmm. et qui ne le disaient pas forcément, et qui le faisaient tout en étant rentable. Donc nous, notre obsession, c'est de pouvoir s'appuyer sur des chefs, typiquement, qui pourront aller planter pour nous le drapeau bio, à la fois dans le cursus, les CAP cuisine ne parlent jamais de bio ou même de transition alimentaire, de saisonnalité, de tout ce dont on a besoin pour pouvoir mettre plus de bio venu en étant rentable.
Oui.
Et d'une manière générale, on a un objectif de 18% de surface en bio. On est actuellement à 10% et de 14% des fermes. Il va falloir recruter des gens dans la profession agricole de toute façon, puisqu'il y a des départs à la retraite.
Oui.
Ceux qui lèvent la main pour prendre la relève, ils veulent le faire en bio. Donc, si on veut avoir encore une France avec des agriculteurs, et si on veut avoir un agriculteur comme voisin qui soit bio, parce qu'on n'a pas envie qu'il traite, il n'y a pas de secret. Il faut qu'on réduise le green gap, c'est-à-dire ce décalage qui est « Ah, mais moi, en tant que citoyen, j'aime beaucoup les bio, j'adore mon voisin bio, je suis contente d'avoir des vignes bio à l'arrière de ma maison, mais quand je franchis la porte du supermarché, ben, j'achète pas forcément les produits labellisés, ou j'achète local pas bio. » Ce green gap, il faut le réduire. Il faut que, parce qu'on est citoyen amateur de bio, on le soit aussi à la maison, au restaurant, à la cantine, qu'on choisisse le bio.
Concrètement, comment tu vas investir le terrain de jeu des non-bio?
Oui, le terrain de jeu des non-bio, si on veut recruter des agriculteurs, il va y avoir beaucoup de gens qui seront non issus du milieu agricole, ce qu'on appelle les NIMA, qui vont prendre la relève pour tous les départs à la retraite bio. Et ça, ça veut dire que c'est les chambres d'agriculture, c'est les syndicats agricoles, c'est la coopération agricole, tous ces organismes qui comportent du bio dans leur rang, mais qui ne le sont pas forcément. Donc nous, on veut aller parler de bio, on ne va pas rester dans une garderie bio où les bio parlent au bio. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le réservoir des futurs bio, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas maintenant bio, mais qui le seront dans quelques années, parce que il faut qu'on reste cette nation leader de la production bio à l'échelle de l'Europe.
Ok, hyper intéressant. J'ai peut-être une dernière question parce que tu parles de vous appuyer sur, justement, par manque de budget, sur des caisses de résonance du message, donc des chefs, des régions, des interprofessions, des acteurs divers et variés qui ont, j'imagine, des enjeux divers et variés et des positionnements divers et variés autour de leur sujet propre. Comment tu fais pour maintenir une cohérence dans les messages? Tu parlais de trois piliers de communication, donc j'imagine qu'il y a la création de peut-être de guidelines de communication ou d'un playbook ou je ne sais quoi, mais comment tu fais pour maintenir la cohérence dans ta com et dans ton identité en tant que label, malgré une multiplicité et une pluralité des acteurs qui vont faire office de relais de communication?
Alors, attention, nous n'est pas un label, on est l'agence.
Oui.
Le label en soi, on ne certifie pas, mais on a eu le sujet de certains partenaires qui voulaient reprendre la campagne, mais en édulcorant certains messages. Par exemple, le message clé, il est purement descriptif, il est le bio produit avec zéro pesticide de synthèse. Et on a eu des filières qui nous ont dit, oui, bah, elle est sympa, votre campagne, nous, on va faire un visuel avec notre produit, mais par contre, on va mettre des agriculteurs engagés dans la durabilité, où 100% de nos producteurs ont des pratiques durables.
C'est
et là, on leur a dit, c'est pas possible en fait, parce que le ministère nous a donné de l'argent pour faire une campagne bio. Si on peut la transposer à un produit non bio, c'est qu'elle n'est pas, elle n'est pas bio. On rentabilise pas chaque euro que nous confie l'État. Or, nous, on veut faire fructifier chaque investissement public. Ouais. Donc, il y a eu déjà ne pas lâcher sur quelques fondamentaux. On a eu beaucoup de mal à trouver le dénominateur commun. Donc, 0% de pesticides de synthèse, 0% OGM, 30% de biodiversité en plus. Le bio ne produit pas que des bons aliments, elle produit des aliments une eau de qualité. Mmh. Le bio crée de l'emploi. On a un corpus de messages et donc on était obligé de dire, vous pouvez la reprendre, mais pas en la dénaturant. Et on a une charte qui est assez souple, mais qui a le mérite au moins de pouvoir
de cadrer,
permettre aux régions d'adapter à leur terroir, parce que le bio, là encore, c'est pas,
bien sûr,
faut pas faire one size fits all. On ne peut pas faire une taille unique dans la mesure où on a une grande variété de terroirs, de production, etc.
Oui.
Donc, c'est, une fois de plus, c'est Jocelyne qui a charté les 12, les don'ts et le mode d'emploi de cette campagne commune.
Génial. Et du coup, alors peut-être le mot de la fin, quelles sont les prochaines étapes? Tu parlais de potentiellement des budgets renouvelés. Et si tu avais plus de moyens et plus de capacités, tu disais que certains budgets sont plutôt à 30 millions. Tu parlais des budgets de l'industrie agroalimentaire du privé?
Oui, ou même des filières, ou même de l'ADEME
quand elle fait des campagnes. Ils sont bien plus financés. Et si toi, tu avais accès à ce type de budget, typiquement, comment est-ce que ta stratégie de com et marketing changerait? Ou qu'est-ce que tu rajouterais?
Eh bien, je pense que ce serait une fusée à plusieurs étages. J'aurais énormément de choses à faire en investissant les écoles.
Ouais.
Par exemple, je ne sais pas si tu as en tête le permis piéton.
Oui, non, attends, non, pas du tout.
Alors, c'est tous les CE2 qui passent le permis piéton. C'est des gendarmes qui viennent à l'invitation des enseignants. Et à la fin, il y a une petite cérémonie où les enfants qui ont réussi le quiz et les tests ont une remise de permis piéton.
C'est trop chou. Mais ça veut dire qu'on a le droit de marcher?
Ça veut dire que tu as compris comment tu faisais pour ne pas avoir d'accident. Parce que tu sais que les accidents de la route baissent, mais les accidents de piétons augmentent, improbables.
C'est dingue.
Donc, à l'origine, j'ai rencontré le créateur de cette opération et je me suis dit, mais il nous faut un permis de bien manger. Donc, je pense que vraiment là, ce qui serait idéal, ce serait déjà que le bio soit présent dans chacun des événements qui touchent de près ou de loin, ou à l'agriculture ou à ce qui se mange.
Ouais.
Ensuite, je pense qu'effectivement, des messages à des heures de grande écoute, répéter et surtout pratico-pratique sur vous voulez mettre plus de bio dans votre assiette, voilà comment. Parce que c'est, on l'a fait la preuve, l'INRA l'a prouvé. Le chercheur Louis-Georges Solaire a comparé les budgets d'alimentation d'une famille qui mange 60% bio et une qui mange pas du tout bio. À pouvoir d'achat égal, l'éducation est clé. Donc c'est l'éducation qui va être décisive dans le fait qu'on change le contenu de l'assiette. Il y a besoin aussi que on ait de l'exemplarité. Par exemple, la table de l'Élysée, je ne sais pas quel est le pourcentage de bio. J'ai pas eu encore l'occasion de me pencher sur la question de la place du bio dans les tables de la République.
Mais
on me dit souvent oui, mais c'est trop élitiste. Mais non, en fait, c'est pas du tout trop élitiste. C'est hyper important quand on reçoit des chefs d'État étrangers. Il faut qu'on puisse montrer qu'on est la nation championne de production bio en Europe.
Menée par l'exemple, finalement.
Exactement. Moi, je pense que des moyens pour déployer dans les écoles le maximum d'éducation alimentaire et d'explication, même pour d'agriculture, qu'on sache ce que c'est l'agriculture. Ça, c'est le sens de l'histoire. Et ça, l'investir, c'est aussi des moyens. C'est des moyens humains, c'est des moyens... Ne serait-ce qu'imprimer des kits pédagogiques, nous, on nous en demande toutes les semaines parce qu'on en avait financé par l'Union européenne il y a encore quelques années et les instituteurs, ils adorent ça. T'as un grand poster avec une ferme bio qui explique comment ça marche, etc.
Trop bien.
Donc, je pense que ce serait pas juste de 30 millions sur de l'achat d'espace. Non, ça devrait être segmenté avec la cible des CAP cuisine, la cible des CE2, la cible des 6e, la cible des, je sais pas moi, mais des terminales, okay, la cible des étudiants. La cible, il faudrait travailler conjointement avec Santé publique, avec l'ADEME. L'ADEME, par exemple, il parle beaucoup de manger des lentilles, de lutter contre le gaspillage, de cuisiner plus, etc. Donc, il y aurait trois grandes cibles qui seraient les cantines, les restaurants et bien sûr la consommation à domicile, les foyers français. Et à l'intérieur, il y aurait toutes sortes de sous-cibles. Et il faudrait effectivement orchestrer de façon polyphonique des messages pour chacune de ces cibles pour lui donner... pas que les clés de pourquoi le bio c'est bien, parce que ça, il y a de plus en plus de défiance sur les messages officiels, mais juste de donner les clés de comment est-ce qu'on en met, quel que soit son budget.
C'est passionnant, c'est un très beau mot de la fin et j'espère que tous ces projets verront le jour très bientôt.
Merci. Écoute, merci beaucoup, merci pour l'échange.
Merci à toi alors pour tous ces conseils et puis bah, bravo et bon courage.
Merci, à bientôt.
À bientôt. Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Pour ma part, j'ai trouvé passionnante la stratégie de Laure qui, contrainte par des ressources limitées, a opté pour une stratégie marketing très maligne. S'appuyer sur un réseau de partenaires locaux, d'ambassadeurs et de stakeholders pour diffuser les messages clés qu'elle souhaite faire connaître à l'échelle nationale. Et pour que ça marche, je retiens deux ingrédients. Créer des messages forts et une charte éditoriale qui unissent, motivent et parlent à tous les acteurs concernés, mais laisser à chacun la possibilité de s'approprier et d'adapter, dans une certaine mesure bien sûr, ces messages et cette charte. Je vous laisse sur cette réflexion et je vous dis à très vite dans The Storyline.